Donc, on continue. C'est toujours un plaisir de vous revoir pour la plupart des gens que je connais depuis plusieurs années. Évidemment, là, quand Jean-Claude a dit que j'étais depuis 60 ans dans Foi et Partage, j'ai un petit peu exagéré, puisque Foi et Partage n'existe pas depuis 60 ans. Ça fait que, en tout cas, donc, beaucoup de personnes connues, puis je suis content aussi de voir les nouvelles personnes. Nouvelles pour moi, mais je sais que ça fait déjà plusieurs fois que vous venez participer aux journées de Foi et Partage. Alors, on continue sur le thème, au fond, qui est les disciples de Jésus. Et aujourd'hui, bien, la phrase qui avait été proposée comme thème de la journée, c'est « Ils ont tout laissé pour suivre Jésus ». Alors, ça se fonde sur un passage de Saint Matthieu. Vous verrez, il y a des feuilles à certains endroits là, avec des passages de l'Évangile qui font allusion à ce dont on va parler aujourd'hui. Ça fait que s'il y en a qui veulent les références plus précises et qui n'ont pas le temps de les écrire quand je les dis, bien, vous les retrouvez sur cette feuille-là. C'est dans Matthieu, au chapitre 4, versets 18 à 22, qu'on trouve en particulier cette phrase-là. Alors, voici ce qui est écrit. « Comme Jésus cheminait sur le bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient le filet dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Et il leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Eux, aussitôt, laissant les filets, le suivirent. Et avançant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans leur barque avec Zébédée, leur père, en train d'arranger leurs filets, et il les appela. Eux aussi, laissant la barque et leur père, le suivirent. Alors, Matthieu nous raconte l'appel des quatre premiers disciples de cette façon-là. Marc le raconte à peu près de la même façon, mais Luc, lui, il rajoute une préparation à ça. Hein, Luc, il nous rappelle qu'avant ça, bien, Jésus avait parlé à la foule, Jésus avait fait des miracles, et donc il avait eu l'occasion de se faire un petit peu voir par Pierre, André, Jacques et Jean. Et à un moment donné, il a dit à Pierre, « Bien, laisse-moi monter dans ta barque. » Il a eu la pêche miraculeuse. Et après ça, Pierre a dit à Jésus cette phrase importante, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Puis Jésus a dit, « Désormais, viens avec moi. » puis ta vie va être transformée. Alors, j'ai trouvé une phrase importante, c'était la première fois que je voyais ça de cette façon-là, je ne sais pas pour vous autres, ce ne sera peut-être pas la première fois en tout cas. On a l'impression quand Pierre dit à Jésus, « Éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur », que la réaction normale de Jésus, ce serait justement de ne pas l'appeler, puisqu'il dit « Je suis un homme pécheur ». Puis c'est le contraire. Jésus l'appelle justement parce qu'il est faible, mais qu'il veut entrer dans sa vie pour transformer sa vie. Alors, je ne réussis pas à dire ça mieux, soit que je vais vous lire la phrase qui est ici, ça va peut-être mieux dire la chose. Se voir soi-même comme pécheur ne consiste aucunement en une sorte d'exigence morale que l'on s'impose et toute une liste de faiblesses qu'on récite devant Dieu, mais être capable de se voir soi-même comme pécheur, c'est simplement le signe que l'on est capable, de manière pacifique, de s'accepter soi-même pour ce que l'on est, sans être sur la défensive, parce qu'on se sait aimé. Puis là, il rajoute une autre phrase qui est encore plus dérangeante un peu. On n'a plus peur d'être vu comme un raté, ou même de l'être. Bien là, exagérons pas tout de même. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Alors, au fond, ce qu'il dit, c'est que quand les disciples rencontrent Jésus pour la première fois et qu'ils découvrent, qu'ils se voient en vérité tels qu'ils sont, avec leurs faiblesses, avec leurs difficultés, l'important, c'est pas que les disciples se voient comme pécheurs. L'important, c'est que Jésus leur dit, « Je t'aime tel que tu es. » Hein? Ça nous rappelle une phrase avant que Jésus appelle un autre homme, celui qu'on appelle le jeune homme riche, on dit « Jésus le regarda et l'aima ». Bien, certainement qu'au moment où il a appelé Pierre, André, Jacques et Jean, on pourrait dire aussi « Jésus le regarda et l'aima tel qu'il était ». avec ses faiblesses, avec ses limites. Mais Jésus dit, je t'appelle à participer à ma mission. Je sais qui tu es, mais ce qui est le plus important, c'est l'amour que j'ai pour toi. Et donc, il y a cet appel, et on dit, bien, ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Bien, en fait, d'après ce qu'on a entendu dans Saint Matthieu, là, dans Saint Marc, on nous dit seulement qu'ils ont laissé la barque, puis les filets, puis leur père, puis les compagnons de leur père. Bien, ça en fait pas mal, tout de même. Hein? Ils ont tout laissé. En tout cas, ils ont laissé leurs moyens de subsistance. Hein? Qu'est-ce qui leur permettait de vivre, de faire vivre leur famille, de se nourrir, d'avoir un petit peu d'argent? C'était la pêche. Alors, aussitôt, ils ont laissé leur travail quotidien, ils ont laissé les instruments de la pêche pour dire « on suit Jésus ». On n'est pas des gens très riches, mais même le peu qu'on a, on accepte de le remettre en question pour répondre à l'appel de Jésus. Mais peut-être surtout, plus important, et c'est pour ça qu'on souligne qu'ils ont quitté leur père et leurs compagnons, ils laissent aussi leur environnement familier. Hein, on peut supposer que Pierre, André, Jacques et Jean, ils avaient vécu pas mal toute leur vie dans ce petit village. Et donc, tout ce qui leur donnait de la sécurité, leur famille, les gens qu'ils connaissaient bien, leurs clients, leurs compagnons de pêche, c'était ça leur monde, c'était ça leur environnement. C'était ça qui faisait qu'ils étaient reconnus. Hein? Et ça, bien, ils acceptent de laisser ça pour suivre Jésus. Et ils acceptent d'aller plus loin aussi dans leur façon de vivre leur religion. Qu'est-ce que c'était la façon dont Pierre, Jacques, Jean, André vivaient leur religion avant de rencontrer Jésus? On ne le sait pas trop, mais on suppose qu'ils faisaient comme à peu près tous les bons juifs de ce temps-là, pas spécialement instruits. C'était pas des docteurs de la loi, c'était pas des prêtres, c'était pas des pharisiens, c'était pas des savants, mais ils allaient à la synagogue toutes les semaines, écouter la parole de Dieu, prier un peu ensemble. Ils n'étaient pas plus catholiques que le pape. Ça se comprend, il n'y avait pas de pape. Ils n'étaient sûrement pas plus catholiques que le pape. Ils n'étaient pas plus catholiques que le pape, mais c'était des bons juifs, tout simplement. Et là, ils acceptent de se faire proposer quelque chose de très différent, qu'ils ne savent pas exactement, de toute façon, ce que Jésus va leur proposer, ce que Jésus va leur demander, mais ils acceptent que leur manière de vivre de tous les jours, leur manière de vivre leur foi aussi, va être changée par Jésus, sans savoir exactement de quelle manière elle va être changée, mais encore une fois, l'important, ils se sentent aimés, ils savent qu'ils sont importants aux yeux de Jésus, et donc c'est ça qui leur donne la possibilité de quitter ce qui fait leur vie tous les jours, ce qui fait leur sécurité, pour dire on s'en va vers du nouveau. On sait qu'il y a des gens autres que les quatre premiers apôtres ou que les 12 apôtres qui se sont fait proposer la même chose et qui n'ont pas été capables de tout quitter pour suivre Jésus. Hein, entre autres, celui qu'on appelle le jeune homme riche, celui dont on dit Jésus le regarda et l'aima, celui qui disait que déjà il n'était pas trop mal parce qu'il mettait en pratique tous les commandements de Dieu, il n'a tout de même pas réussi à dire oui à Jésus. Hein? Il n'a pas réussi à accepter de quitter ce qu'il avait pour marcher à la suite de Jésus. On sait que Nicodème, ce savant, ce docteur de la loi, qui est venu trouver Jésus la nuit pour discuter avec lui, pour lui poser toutes sortes de questions, pour lui demander « qu'est-ce que tu veux dire quand tu nous dis qu'il faut naître de nouveau », tout ça, bon, il a trouvé ça très intéressant, toute cette discussion-là. Il a trouvé ça très beau, mais il n'a pas tout quitté pour suivre Jésus. Donc, cette invitation-là, elle a été lancée à beaucoup de personnes, toutes des personnes dont on peut dire Jésus le regarda et il l'aima, mais ces personnes-là ne se sont pas toutes senties assez attirées, n'ont pas toutes découvert que ça valait la peine suffisamment pour laisser des choses importantes et pour suivre Jésus. Et quand on dit que les apôtres, eux, les quatre premiers, puis les autres aussi, ont tout laissé pour le suivre, en fait, c'est pas vrai qu'ils ont tout laissé au début. parce qu'il est resté en dedans d'eux autres des façons de voir Dieu, des façons de voir la foi, des façons de voir la présence de Dieu dans leur vie, qui ont eu à changer puis qui ont eu à transformer petit à petit en connaissant un petit peu mieux Jésus. Puis ils n'avaient pas laissé non plus, c'est clair, leur idée que quand arriverait l'envoyé de Dieu, quand arriverait le Messie, il viendrait établir une espèce de royaume, puis que s'il suivait, bien, il y avait des bonnes chances d'être parmi ses premiers collaborateurs, puis ça leur apporterait de la gloire, de la richesse, du pouvoir sur les autres. Et on se souvient que assez longtemps après que Jacques et Jean ont commencé à suivre Jésus, bien, ils lui disent, on aimerait que tu nous donnes une chose très importante, on voudrait siéger à ta droite puis à ta gauche dans le royaume de Dieu. J'espère que c'est Jean, mon patron, qui a demandé d'être à droite, j'espère. Je ne suis pas sûr. En tout cas, à gauche, c'était pas trop mal non plus, tout de même. Alors, ils suivaient Jésus depuis un certain temps. Ils avaient laissé plusieurs choses pour suivre Jésus. Ils avaient laissé leur travail, leur famille, leur cercle social, leur façon d'aller prier à la synagogue, mais ils n'avaient pas laissé encore cette idée-là que la mission de Jésus, c'était d'établir sur la terre un royaume puissant qui leur permettrait d'être au-dessus des autres. Ça leur a pris vraiment du temps à laisser ça. Hein? Ça leur a pris tellement de temps que ça s'est produit probablement juste après la résurrection de Jésus, de comprendre enfin que le royaume que Jésus est venu établir, c'est pas un royaume de domination sur les autres, c'est un royaume de l'amour puis de la miséricorde de Dieu, puis que donc, si tu veux être parmi les plus importants dans ce royaume-là, ben il faut que tu te mettes au service des autres. Hein, parce que Jésus n'a pas dit à Jacques et à Jean, il a dit, oui, évidemment, vous ne savez pas ce que vous demandez, là, c'est bien sûr, vous n'avez rien compris pantoute, mais il a tout de même pas dit à Jacques et à Jean, vous ne serez pas importants dans mon royaume, mais il leur a dit, si vous voulez être important, ben il faut que vous mettiez au service des autres. Alors, je suis prêt à exaucer votre demande, mais pas de la façon dont vous pensez. Vous avez encore beaucoup de changements à faire dans votre vie, beaucoup de conversions à faire pour vraiment tout laisser et me suivre. Alors, tout laisser pour suivre Jésus, ça a été vraiment quelque chose qui s'est fait avec le temps chez tous les apôtres. C'est probablement quelque chose qui se fait avec le temps chez nous aussi. Hein? Je ne penserais pas, je vais en reparler tout à l'heure un petit peu, mais disons ça tout de suite, je ne penserais pas qu'on ait encore réussi, personne, à tout laisser pour suivre Jésus. Pensez-vous? Ben peut-être les pères, oui, ça se peut. Les pères, là, eux autres, là, ils ont fait le vœu de pauvreté, ils ont tout laissé. Non? Les religieuses? Oui, peut-être. Mais il n'y en a pas beaucoup ici, des pères ou des religieuses, fait que on ne sait pas. On a le désir de suivre Jésus. On comprend un petit peu que c'est important et que ça peut changer notre vie, que ça peut nous apporter quelque chose de bon, mais est-ce qu'on est vraiment prêt à tout laisser pour suivre Jésus? Soyons pas trop déçus si notre réponse est non, parce que, encore une fois, pour Pierre, Jacques, Jean puis André, ça a pris pas mal de temps. Puis un autre pour qui ça a pris pas mal de temps aussi, c'est saint Paul. Hein, il y a ce passage très important de l'Épître aux Philippiens, où saint Paul nous dit comment il y avait bien des choses dont il aurait pu être fier dans sa vie, mais que quand il a rencontré Jésus, ça a commencé à avoir pas mal moins d'importance pour lui. Est-ce que je vais le retrouver? Je m'étais mis un signet, mais peut-être que je ne le retrouverai pas. Ah oui. Alors, Épître aux Philippiens, chapitre 3. Est-ce que Saint Paul, il dit, j'aurais pourtant bien des occasions, moi aussi, de me glorifier dans les choses que je possède, parce que je suis hébreu, fils d'hébreu, quant à la loi, un pharisien, quant au zèle, j'étais un persécuteur de l'Église, quant à la justice que peut donner la loi, j'étais un homme irréprochable. Pas grand monde qui peut dire ça, mais en tout cas, lui, il dit pareil. Mais tous ces avantages dont j'étais pourvu, je les ai considérés comme rien à cause du Christ. Bien plus, désormais, je considère tout comme désavantageux à cause de la supériorité de la connaissance du Christ Jésus. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre afin d'être trouvé non pas avec ma justice à moi, mais avec celle qui vient de Jésus. Alors, au fond, Paul qui dit, Oui, dans ma vie, j'avais une vie qui paraissait très bonne, qui paraissait irréprochable. Ceux qui me regardaient disaient c'est un modèle de croyant, c'est un modèle de juif. Mais quand j'ai rencontré Jésus, je me suis aperçu que c'était pas ça qui donnait le vrai sens, la vraie valeur à ma vie. C'était de m'attacher à lui, à son amour, puis au changement qu'il voulait apporter dans ma vie et dans le monde. Alors donc, au fond, c'est une découverte que tous les disciples de Jésus ont fait à un moment donné. Ils ne l'ont pas fait seulement par leur propre force, ils l'ont fait parce que l'Esprit de Dieu agissait en eux, que ce qui donnait vraiment un sens à leur vie, ce n'était pas leur bien matériel, ce n'était pas toutes les relations sociales qu'ils pouvaient avoir, ce n'était pas leur réputation, ce n'était pas leur perfection, c'était de donner leur vie pour suivre Jésus. Alors, on pourrait laisser le temps à ça de pénétrer un petit peu dans nos cœurs et dans nos vies en reprenant un chant qui nous dit un peu comment, en se voyant regardé par Jésus, il y a des choses qui changent dans nos vies. Oh, ce regard! Qu'est-ce qui a composé ça, déjà, ce chant-là?
Noël Colombier.
Noël Colombier, OK, OK. Hein? Alors, c'est ça, haut ce regard, c'est-à-dire le regard de Jésus sur Pierre, sur Jean, sur toutes les personnes qu'il a appelées, le regard d'amour de Jésus qui leur dit, bien, je t'invite à un changement dans ta vie. C'est ça qui permet aux gens de quitter beaucoup de choses importantes. Et naturellement, il faut terminer la phrase. Hein? La phrase dit dans les évangiles, ils ont tout laissé pour le suivre. Hein? Être disciple de Jésus, ce n'est pas juste laisser des choses importantes, quelles qu'elles soient, c'est laisser des choses pour choisir de suivre Jésus, c'est-à-dire pour choisir de participer à sa mission. Et Jésus exprime ça d'une manière que Pierre et les autres peuvent comprendre facilement. Il dit « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » C'est pour des gens dont le métier c'était d'être pêcheur, bien en tout cas, il me semble que c'était pas mal plus facile à comprendre. Et quelqu'un a dit à quelque part, ben, des pêcheurs d'hommes, c'est ça, c'est le contraire. Quand on pêche des poissons, une fois qu'on a pêché le poisson puis qu'on le met à terre, le poisson, il meurt. Hein? C'est le succès du pêcheur d'avoir beaucoup de poissons morts dans ses filets. Mais pêcheurs d'hommes, c'est le contraire. Une fois qu'on pêche des hommes, des femmes, c'est pour qu'ils vivent. Hein? C'est aller chercher des hommes et des femmes au nom de Jésus, c'est pas pour les faire entrer dans la mort, c'est pour les faire entrer dans la vie de Jésus. Alors, évidemment que pour Pierre et les autres, ils comprenaient bien ce que c'était qu'être pêcheur, mais ils auraient tranquillement, pas vite, pendant tout le reste de leur vie, à comprendre qu'être pêcheur d'hommes et de femmes, c'est leur offrir d'entrer dans la vie de Jésus. Depuis, surtout que François est pape, il y a une expression qui est souvent employée quand il parle des chrétiens, des chrétiennes, il dit « Vous êtes tous appelés à être des disciples missionnaires. » Et c'est une phrase que reprend très souvent notre évêque aussi, Mgr Lacroix, bien sûr. Il ne dit pas des disciples et des missionnaires, mais pour bien montrer que les deux réalités vont nécessairement ensemble, il dit des disciples missionnaires, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment suivre Jésus, être disciple de Jésus, sans en même temps participer à sa mission, sans en même temps annoncer son amour autour de nous. Ça ne veut pas dire qu'on a tous et toutes à être des missionnaires en prêchant, en parlant constamment de Jésus, mais ça veut dire que par notre manière de vivre, on est de toute façon invité à témoigner de l'amour de Dieu, puis ça donne le goût à d'autres personnes de se rapprocher de lui. Et si on se rappelle ce qui nous est dit dans l'Évangile, Jésus n'a pas attendu longtemps avant d'envoyer ses disciples dans les villages d'alentour pour commencer à annoncer la bonne nouvelle. Il n'a pas attendu qu'il soit parfait, il n'a pas attendu de leur avoir parlé pendant des années de la Bible puis de la parole de Dieu. Il n'a pas attendu de leur avoir donné une formation complète en théologie, en pastorale, en catéchèse, en tout cas, tout ce que vous voulez. Après qu'il ait été avec lui pendant quelques temps, assez bref, il a dit, « Vous êtes capable d'aller dans les villages commencer à annoncer l'amour de Dieu. » Ça ne sera pas tout à fait aussi bien réussi que ça devrait, mais vous êtes capable de commencer. C'est un petit peu ce qu'il dit aussi à tout le monde qui le suit, qui accepte de le mettre dans leur vie. Commencez à annoncer l'amour de Dieu par votre façon de vivre. Attendez pas d'être parfait, attendez pas d'avoir tout compris de ma parole, puis surtout de l'avoir tout mis en pratique, mais commencez un peu, pas mal, beaucoup, à vivre de mon amour, puis ça va paraître, ça va donner le goût aux autres de vous suivre. Alors, c'est ici qu'il faut que je vous parle un petit peu, parce que là, Jean-Claude a donné l'impression que je faisais plus rien, là, Jean-Claude, hein, c'est ça que tu as dit? C'est ça que tu as dit, Jean-Claude, que je faisais plus rien? C'est ça que tu as dit? Okay. Ben, t'as pas mal raison, mais pas tout à fait vrai, tout de même. Alors, il faut que je vous parle d'une personne qui prend un petit peu plus d'importance dans ma vie depuis quelques mois. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, son nom, Colette Sanson, la fondatrice de la Maison Revive. Alors, depuis quelques mois, je donne du temps pour m'occuper de sa cause de béatification qui a été introduite. Mais ce que je veux vous dire, c'est pas tellement ce que je fais pour qu'elle soit béatifiée. En fait, je fais pas encore grand-chose, mais je vais en faire peut-être plus à un moment donné. Mais c'est, au fond, je pense que Colette, pour moi, c'est l'exemple d'une personne qui a pris au sérieux cet appel-là à tout quitter pour suivre Jésus puis témoigner de son amour. Hein, c'est une personne qui... pendant son enfance, son adolescence, sa vie de jeune mère de famille, était déjà croyante, dévouée pour les autres, proche des autres, tout ce qu'on voudra, mais qui vivait sa vie ordinaire d'une mère de famille de ce temps-là, mariée à quelqu'un qui avait un peu d'argent, puis tout ça, bon, deux enfants et tout. Et vers les années 1975, elle était devenue veuve et elle a eu un choc dans sa vie. C'est de rencontrer des détenus et des ex-détenus qui disaient « Comment voulez-vous que je ne retourne pas en prison? Quand je sors de là, il n'y a personne qui m'aime. Il n'y a personne qui m'accueille. Il n'y a personne qui me dit que je suis aimé. Alors, ben, je recommence, puis je retourne en prison. » Et pour elle, ça a été ce qui a amené le changement de sa vie et l'ouverture de la Maison Revive. Alors, pour elle, tout quitter pour suivre Jésus, ça a voulu dire, bien sûr, quitter son logement assez confortable, aller louer un petit appartement dans Saint-Roch, puis commencer à accueillir du monde et vivre presque à longueur de journée puis de semaine dans un tout petit espace avec 4-5 ex-détenus, gens de la rue, itinérants et tout. Mais ça a voulu dire surtout changer complètement sa façon de voir aussi ces personnes marginalisées, ces ex-détenus, ceux qu'on appelait des criminels, trouver en eux la présence de Dieu, puis leur révéler qu'ils étaient aimés. Hein? Colette, elle n'a pas ouvert une maison de thérapie. Elle dit, ça existe ailleurs, des maisons de thérapie spécialisées. Vous pouvez y aller si vous voulez, si vous êtes dépendant de la drogue, de l'alcool ou tout ça. Mais moi, ma thérapie, c'est simplement de vous dire que vous êtes aimé, puis de vous le montrer par ma façon de vous accueillir. Alors, je pense que c'est dans notre époque assez récente encore et assez proche de nous, quelqu'un pour qui la parole « tout quitter pour suivre Jésus », ça l'a pris un sens qui a transformé sa vie, puis qui a transformé aussi la vie de d'autres personnes. Quelqu'un qui l'aurait connu à l'âge de 30 ans, 35 ans, aurait dit « ben, c'est une bonne mère de famille chrétienne », puis c'était vrai aussi, mais elle n'avait pas encore fait cette découverte encore plus profonde et cet appel encore plus profond que le Seigneur lui adressait. Alors, ça m'amène à poser la question, évidemment, qu'on a à se poser chacun et chacune d'entre nous, tout le temps, pas juste aujourd'hui, pas juste la semaine prochaine, mais tout au long de notre vie. Moi, qu'est-ce que je suis prêt à laisser pour suivre Jésus encore mieux, pour être encore mieux son disciple, pour annoncer encore mieux son amour? Mais pour pas nous décourager trop devant cette grosse question, commençons par dire d'abord que je pense que tout le monde, on a déjà laissé des choses pour suivre Jésus. Ça fait que ça va déjà pas si mal, notre affaire. Je pense qu'à peu près tout le monde ici, tout le monde, j'ai l'impression, on a fait le choix que Jésus et sa parole et son évangile, ça soit une réalité importante dans nos vies, que ce qui donne un sens à nos vies, ce ne soit pas d'accumuler le plus de biens matériels possible, le plus de confort possible, d'avoir du prestige, d'être reconnu par les autres, mais que ce qui donne vraiment un sens à nos vies, c'est de se savoir aimer. Je pense que déjà, on a tous fait un certain bout de chemin dans cette direction-là. Et que aussi, contrairement à bien du monde qui vit autour de nous aujourd'hui, bien, Dieu, Jésus, c'est pas pour nous simplement quelqu'un de vague, quelqu'un de lointain, quelqu'un d'un nuage auquel on pense de temps en temps, surtout quand ça va mal, mais que c'est quelqu'un vraiment de présent dans nos vies, quelqu'un de réel, quelqu'un qui nous accompagne. Alors, on a déjà fait des choix, chacun et chacune d'entre nous, pour suivre Jésus. Mais on est invité à se demander, est-ce que je ne peux pas continuer de faire des choix? Est-ce que je ne suis pas appelé encore à mieux le connaître, à mieux l'aimer? Est-ce que je ne suis pas comme Pierre et Jacques et Jean, toujours appelé à me demander, ben, est-ce que vraiment là, le royaume de Dieu, pour moi, c'est la présence de cet amour, de cette miséricorde, de ce service des autres de plus en plus fort dans ma vie? Est-ce que je pense encore que le royaume de Dieu, c'est quelque chose que je dois mériter par mes propres forces, ou si c'est une réalité que je reçois par amour, puis que j'essaie de transmettre aux autres autour de moi? Je pense qu'on a tout encore des pas à faire de ce côté-là. Et est-ce que, aussi, j'accepte que l'Église, dont je fais partie, ben, elle est dans une période où elle a beaucoup de choses à laisser, elle a beaucoup de pauvreté à vivre, beaucoup d'appauvrissement à vivre, mais que ces appauvrissements-là, ça l'invite à être de plus en plus confiante dans la présence et dans l'amour de Dieu. Je pense que chacun et chacune d'entre nous, nous le savons, on passe par une période où notre Église est passablement brassée, hein? Alors, quand on pensait, comme on le pense encore assez souvent, que l'Église, c'est les prêtres, les religieuses, les évêques puis le pape, ben on dit ouais, ça me fait de la peine, mais qu'est-ce que tu veux? C'est leur problème. Mais quand on croit que l'Église, c'est tous nous autres, j'espère, pour la plupart, on pense ça, on croit ça, que c'est tous nous autres, c'est pas juste le pape, les évêques, les prêtres, les religieux. Bon. Alors, si l'Église, c'est seulement le pape, les évêques, les prêtres, ben on dit, bon, ben l'Église a bien des problèmes, mais qu'est-ce que j'y fais? Si on dit l'Église, c'est tous nous autres, ben quand notre Église vit des épreuves, des appauvrissements, des difficultés, on se sent touché, nous autres aussi. Hein? Et d'une certaine manière, ben ça vient nous dire, ben toi, est-ce que à travers tout ça, malgré tout, tu continues de croire en cette présence de Jésus à son Église? Est-ce que tu continues de croire qu'il y a un avenir, il y a une espérance et que l'Église va continuer d'être vivante, mais peut-être pas de la façon dont on l'a connue jusqu'à maintenant? Hein? Chacune d'entre nous, pour la plupart, nous avons un âge relativement avancé. On a tous connu une Église qui semblait inébranlable, qui semblait tout diriger dans la société ou à peu près, et on s'en va vers une forme d'Église beaucoup plus humble, beaucoup plus pauvre, mais est-ce que je suis capable d'accepter que là-dedans, la présence et l'amour de Dieu va continuer de se manifester? Alors, on a laissé des choses pour suivre Jésus. On en a encore à laisser pour le suivre encore mieux, pour le connaître encore mieux, pour vivre encore mieux notre vie d'Église. Puis, on a des choses qu'on ne laissera pas pour suivre Jésus, mais qui vont nous être enlevées de toute façon. Je pense à un de mes confrères qui est décédé il y a à peine 2 mois, pas très âgé, tout de même autour de 75 ans, un bonhomme très dynamique, très capable, intelligent, créateur, tout ça, mais qui, dans les 7 000 dernières années de sa vie, était atteint par la maladie de Parkinson de façon très avancée. Parce que, bien sûr, la maladie de Parkinson, c'est toujours difficile, mais des fois, ça évolue plus vite, des fois, ça évolue moins vite. Lui, ça a été plutôt vite. Alors, je me dis, qu'est-ce que ça a signifié pour lui? Je ne sais pas, parce que je n'y ai pas demandé. Mais qu'est-ce que ça a signifié pour lui, tout laisser pour suivre Jésus, à un moment où, là, c'était plus lui qui était maître de ce qu'il allait laisser, là. C'était plus lui qui décidait qu'est-ce qu'il perdait dans sa santé, dans sa façon de communiquer avec les autres, dans ses capacités, tout ça. Mais tout ce qu'il perdait à ce moment-là, est-ce que, malgré tout, ça lui a permis de découvrir d'autres choses, de la présence et de l'amour de Dieu dans sa vie? Je ne sais pas. Je suppose que oui. J'espère que oui. Mais je me dis, d'une façon ou d'une autre, ça va arriver pour chacun et chacune d'entre nous. On ne souffrira pas tous des mêmes maladies. Déjà maintenant, on n'a pas tous les mêmes faiblesses physiques, mais il y a toujours des choses dans notre vie dont on va être appelé à se détacher, pas volontairement, pas parce qu'on l'a choisi, mais parce que la vie nous mène là, mais le Seigneur nous dit à travers ça, que tu n'as pas choisi, est-ce que tu vas continuer d'être capable de me suivre, de croire en moi, de croire que je suis présent avec toi, puis que même avec des capacités réduites, tu peux continuer à témoigner tout de même de ma vie et de mon amour autour de toi. C'est une question à chacun et chacune d'entre nous. On ne sait pas exactement comment ça va se passer, puis on ne sait pas non plus comment ça va réagir, mais comment on va réagir. Mais on peut demander au Seigneur qu'il nous aide à réagir dans le sens de la confiance et de l'espérance le plus possible. Alors, on pourrait chanter un autre chant avant ma conclusion. C'est quoi déjà? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Oui. Et après ça va être la conclusion. Découragez-vous pas. Bon, alors la conclusion. Bien, la conclusion, évidemment, alors juste pour reprendre encore une fois, au fond, Jésus nous invite à quitter des choses qui sont importantes pour nous, pour le suivre, pour être ses disciples, puis en même temps pour le faire connaître puis aimer autour de nous. Il nous invite à quitter à différents moments de notre vie. Il y a déjà des choix qu'on a faits pour Jésus, pour son Évangile. Il y a des choix qu'on a faits comme Église, mais on a tout le temps des nouveaux choix à faire pour lui donner de plus en plus de place dans nos vies. Et ça, c'est différent, bien sûr, selon nos situations et chacun et chacune d'entre nous, mais ce qu'on lui demande, au fond, c'est d'être capable de faire ces choix-là par amour. Maintenant, bien sûr, Pierre, Jacques, Jean puis les autres, ils étaient comme nous. C'est toujours ça qui nous encourage un peu, c'est qu'ils n'étaient pas beaucoup plus fins que nous autres, surtout au début, même à la fin d'ailleurs. Alors évidemment, Pierre a dit à Jésus, bien là, voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme récompense? Coudonc, ça veut bien que ça donne quelque chose. Alors on sait ce que Jésus y a répondu, évidemment, en gros. Ça varie un peu selon les évangélistes, mais en tout cas, en gros, ce que Jésus a répondu, c'est « Vous qui avez quitté beaucoup pour me suivre, qui avez quitté un père, une mère, des enfants, une terre et tout, vous recevrez le centuple en ce monde et vous aurez la vie éternelle. » Ça se ressemble, ça, parce que la vie éternelle, c'est pas juste la vie après la mort, là. La vie éternelle, c'est aujourd'hui la vie d'amour avec Dieu. Alors, déjà, dans ce monde, vous allez commencer cette vie d'amour avec moi, qui va donner un sens à vos vies, qui va donner vraiment là, quelque chose de bon, quelque chose, et ça va s'épanouir, évidemment, au moment de votre rencontre avec moi. Bon, évidemment, il y a aussi, selon certains évangélistes, un petit peu rajouté quelque chose pour leur faire plaisir, là, parce qu'après tout, fallait bien mettre un petit peu de sucre sur l'affaire. Alors, il a dit aussi, vous siégerez sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. C'est ce que ça veut dire, je ne sais pas trop, mais eux autres, ça leur faisait plaisir. Parce que, de toute façon, ils voulaient être sur des trônes. Fait que, il a bien dit, par exemple, lors de la résurrection finale, ça m'était loin pas mal. Mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il leur a dit, vous recevrez le centuple et vous aurez en partage de la vie éternelle, c'est-à-dire, au fond, vous allez découvrir un nouveau sens à votre vie, puis c'est ça qui va venir transformer toute votre existence quotidienne. Donc, votre récompense pour avoir tout laissé puis me suivre, bien, c'est l'amour même que vous allez recevoir, puis vous allez mieux comprendre, puis vous allez mieux apprécier. Alors, c'est ça, évidemment, que le Seigneur nous dit aussi à chacun et chacune d'entre nous, si on continue d'essayer de le suivre, si on continue de faire des choix qui nous font laisser certaines choses pour être plus proche de lui, pour l'aimer mieux, pour aimer mieux les autres, on va expérimenter que ça donne un sens à notre vie. Je ne sais pas si on va siéger sur des trônes, mais en tout cas, on va. Non, pas nécessaire. OK. Alors, on va expérimenter que ça donne du meilleur dans notre vie, que ça donne un sens à notre vie, que plus on lui donne d'espace en nous, bien, plus finalement cet espace-là est rempli par son amour et ça paraît dans notre façon de vivre. Alors, c'est un petit peu aujourd'hui ce qu'on lui demande, de suivre le chemin des premiers disciples, en étant bien conscient que ce chemin-là, ça a été un chemin avec des hauts et des bas, ça a été un chemin avec des hésitations, avec des chutes, avec des difficultés, mais un chemin finalement qui a été soutenu par l'amour de Dieu, par l'Esprit de Jésus, puis qui les a menés à devenir de plus en plus ses amis. Alors, c'était ça qui était ma conclusion. Nous passons maintenant à la période d'adoration, c'est ça? OK. Puis, naturellement, cet après-midi, bien, on aura l'occasion d'échanger là-dessus en équipe.